Studio Tamani, voici nos informations en français.
Exactement 17h à Bamako, vous écoutez Studio Tamani à la une de ce journal. Le financement des projets et programmes de la Banque mondiale au Mali est suspendu. L'information est donnée dans une lettre circulaire du ministre de l'Économie et des Finances. Des économistes alertent sur les conséquences de cette suspension. Le Premier ministre est interpellé demain devant le Conseil national de transition. Le cadre d'échange des partis s'est dit sceptique sur le contrôle des actions du gouvernement. Examen de fin d'année scolaire 2021-2022. Les dates sont connues. Ils commenceront par le certificat d'aptitude professionnelle à partir du 20 juin 2022. Point complet de ce titre dans un instant avec Assetou Kanté. Mamadi Keita assure la technique. La Banque mondiale annonce la suspension du financement qu'elle apporte aux projets et programmes au Mali. Ses responsables indiquent que cette décision fait suite à l'accumulation des échéances au titre du service de la dette extérieure pendant plus de 45 jours. L'information a été divulguée ce mardi 19 avril sur les réseaux sociaux. C'est à travers une lettre circulaire du ministère malien de l'économie et des finances. Moussa Malé Sissoko.
Le ministre de l'Économie et des Finances a notifié cette suspension au coordinateur des projets et programmes financés par la Banque mondiale au Mali. C'est dans une lettre en date du 14 avril 2022 que Alousseni Sanou a invité les différents coordinateurs à prendre des dispositions nécessaires. Il leur demande d'informer les entreprises et autres prestataires concernés par les projets et programmes en question. Le ministre appelle aussi ses coordinateurs à lui fournir d'ici mercredi 20 avril 2022 l'impact de cette suspension des financements de la Banque mondiale sur la mise en œuvre de leurs activités. La suspension est effective depuis le 15 mars dernier. Alousseni Sanou a rappelé dans sa note que ce sont les sanctions économiques et financières de la CEDEAO qui ont empêché le gouvernement d'honorer ses engagements au titre de la dette publique extérieure. Il faut souligner que la Banque mondiale avait déjà suspendu ses opérations au Mali le 24 mai 2021. Cette suspension a duré 3 mois. C'était suite à la prise du pouvoir par le colonel Assimi Goïta.
Il est impérieux d'œuvrer aujourd'hui pour la levée des contraintes financières au Mali, alerte professeur Abdoulkarim Diamoutene, l'économiste chercheur à l'Université des sciences sociales et de gestion de Bamako, met l'accent sur le besoin de ressources pour financer les actions de développement dans le pays. Il est joint au téléphone par Moussa Malé Sissoko.
La Banque mondiale devait intervenir dans le cadre de l'appui budgétaire. Mais au-delà de ça, la Banque mondiale intervient avec près d'une trentaine de projets et qu'elle finance au Mali, dont 20 projets au niveau national et une dizaine de projets au niveau régional. Maintenant, et quand on essaie de regarder tout ça, la Banque mondiale intervient dans certains secteurs qui sont très sensibles aujourd'hui. Et l'électrification d'énergie, l'électrification rurale et le financement des routes. Et également, il y a un projet phare aussi qui est le projet d'Ibisemen, qui est un projet de filet. Ils interviennent auprès des populations en leur donnant soit du revenu ou bien de la nourriture ou d'autres éléments qui puissent les permettre d'échapper à la pauvreté. Donc, c'est tous ces projets, également dans le domaine de l'agriculture, et tous ces projets phares seront affectés. Maintenant, au-delà des bénéficiaires directs, mais il faut voir tous ceux-là qui travaillent sur toute la chaîne, ça constitue véritablement un problème, quoi.
Vous pouvez réagir à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Le Premier ministre Choguel Kokala Maïga est attendu demain jeudi 21 avril au Conseil national de transition. Cette interpellation est la meilleure occasion pour expliquer aux Maliens les réalisations faites dans le cadre du plan d'action gouvernemental. C'est ce qu'indiquent des partis politiques qui soutiennent la transition. Le cadre d'échange des partis et regroupements politiques, lui, déclare que cette interpellation du PM ne fait craindre aucune motion de censure. Intala Agbilal.
Pour le président de la Convention pour le Mali CPM, cette interpellation du Premier ministre devant le CNT constitue une aubaine au chef du gouvernement pour expliquer ce qu'il a fait. Docteur Alaï Bokoum prédit déjà des débats de qualité et sans animosité.
J'ai plutôt tendance à dire qu'en tout cas le gouvernement aura une très belle aubaine pour expliquer aux Maliens ce qu'il a fait depuis 10 mois. Il y a des choses qui sortent à l'œil parmi les 4 axes que le PAG avait présentés, ça de la sécurité, les réformes, la lutte contre la corruption, l'organisation de bonnes élections et puis l'apaisement du climat social.
Pourtant, pour le cadre d'échange des partis et regroupements politiques, la présence du PM devant le CNT n'est pas une interpellation mais une simple invitation à la session inaugurale d'avril. Pour Amadou Aya, le chef du gouvernement est déjà rassuré qu'il ne serait pas pas inquiété par les dossiers brûlants de l'air. Amadou Aya, premier secrétaire général du CODEM, membre du cadre d'échange.
Ce que nous connaissions, le premier ministre, généralement, s'il y a une motion de censure contre le premier ministre, c'est lui qui venait devant l'Assemblée. S'il vient présenter le CNT et que ce n'est pas satisfaisant, en principe, si c'était une motion de censure normale, c'est que le premier ministre allait être démis ou en tout cas, il allait être déposé.
Enfin, certains responsables d'associations et regroupements de la société civile souhaitent que le premier ministre soit surtout interrogé sur les dossiers qui traînent encore, notamment le chronogramme électoral, les réformes politiques et institutionnelles et la levée des sanctions de la CEDEAO.
Je vous l'annonçais dans les titres, les dates des examens de fin d'année scolaire sont connues. Celui du DEF, diplôme d'études fondamentales, aura lieu en juin 2022. Pour le baccalauréat, ce sera au mois de juillet prochain. Quant aux épreuves du BT, brevet des techniciens, elles se dérouleront en août. C'est ce qu'explique le ministère de l'Éducation nationale dans un communiqué. Plus de détails avec Mahaman Babakunta.
Selon le calendrier, les examens du diplôme d'études fondamentales se dérouleront du 27 au 29 juin 2022. Les épreuves écrites du brevet des techniciens se feront du 4 au 7 juillet 2022. Si les épreuves du baccalauréat technique se dérouleront du lundi 18 au jeudi 21 juillet 2022, les épreuves pratiques du bac professionnel sont fixées à compter du 25 juillet prochain. Les épreuves écrites du certificat d'aptitude professionnelle se dérouleront du 20 au 23 juin. Quant aux épreuves écrites du CAP, elles auront lieu à partir du 27 juin. Les BT santé et les BT agropastoral seront organisés respectivement du 25 au 29 juillet et du 1er au 5 août 2022. Les épreuves écrites des instituts de formation des maîtres auront lieu du lundi 18 au vendredi 22 juillet prochain.
Direction Kenyeba, région de Kaya, où 7 personnes sont mortes dimanche dernier suite à l'effondrement d'une mine artisanale. Le drame a eu lieu entre les villages de Kenyeti et Kofi dans les communes de Djalafara et Sitakili. Selon des sources locales, la mine s'est effondrée au moment où les orpailleurs installaient des bois dans le tunnel. Les autorités des deux communes se sont rendues sur le lieu pour constater les dégâts. Le point avec Adam Hamadou Aïdara.
L'accident s'est produit dimanche 17 avril aux environs de 11h précises des sources sur place. Ils étaient près de 30 personnes dans la mine au moment des faits, affirme-t-elle. Les orpailleurs ont été secourus par les commissions de gestion du site. Certains ont pu sortir rapidement de la mine, d'autres ont été piégés. 7 personnes ont trouvé la mort, expliquent les mêmes sources. Les recherches se sont poursuivies jusqu'au lundi 18 avril. Elles ajoutent que parmi les victimes, il y avait des quinquagénaires. Selon des témoins sur place, c'est la première fois qu'une telle tragédie surviennent sur le site de Kenyeti et Kofil. Ils expliquent aussi que les causes de cet effondrement ne sont toujours pas connues. Les autorités communales de Djalafara et Sitakili et les chefs de village se sont rendus sur le site. Sur place, ils ont procédé à la fermeture du site afin de déterminer les causes réelles de l'accident. Ces autorités indiquent que des dispositions seront bientôt prises pour éviter un tel drame.
Sur un tout autre sujet, en cette veille de fête de Ramadan, les fidèles sont à la recherche de leur tenue de fête. Avec l'avènement des réseaux sociaux, finis les tracasseries dans les ateliers de couture pour certains et il y en a pour toutes les bourses. Malgré les risques de faux rendez-vous des tailleurs, certains clients y vont. Notre reporter Mariam Koulibaly s'est intéressée au sujet.
Dans cette boutique de prêt-à-porter, Moudou, le vendeur, est assis seul, pas de traces de clients. Il explique qu'avec 20 000 francs CFA, le client a de quoi se vêtir chez lui.
Les gens veulent, mais on voulait regarder après que je revenais. Bon, il y a beaucoup de gens, on voulait prêt-à-porter. À ce moment-là, il y a beaucoup de coupures de courant. On ne peut pas aller sur les terres, assis là-bas, pour attendre les avis, ça ne finit pas.
Même décor dans cette boutique de luxe, la gérante ne désespère pas pour autant. Elle sait que malgré la conjoncture, ses clients viendront, car beaucoup apprécient les habits déjà confectionnés.
Les clients viennent demander le prix et disent qu'ils vont revenir. Nos clients aiment les prêt-à-porter. Nous partons les confectionner au Sénégal. Le prix varie de 100 000 à 300 000 francs CFA.
Du côté des clients, chacun a son goût. Les plus patients préfèrent confier leurs habits aux tailleurs. D'autres achètent les tenues déjà cousues.
Pour faire moins cher, je les amène juste chez le tailleur et puis je monte les modèles.
J'aime les prêts à porter. Je ne perds pas mon temps dans les ateliers. C'est souvent trop cher, mais ça vaut le coup.
Je préfère acheter les prêts à porter pour mes enfants. C'est tout un tas de problèmes avec les tailleurs pour tenir les rendez-vous.
Des habits prêts à porter ou un rendez-vous chez les tailleurs, l'objectif de tous est de paraître sur son 31 le jour de la fête.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
À présent, un tour dans les régions. Deux morts, c'est le bilan après une attaque d'un car de transport entre Bankass et Badjangara au centre du Mali. Le drame s'est produit mardi au niveau du village de Parou par des hommes armés non identifiés. Des passagers indiquent que le car et le chauffeur sont portés disparus. Plus de 400 000 francs CFA, c'est le montant collecté auprès du syndicat national de l'éducation de base SNEB pour cette famille de militants récemment décédés à Kuchala. La cérémonie de remise a eu lieu hier à Kuchala. Elle a enregistré la présence des autorités communales et scolaires et les parents des défunts. Il s'agit de venir en aide à ces familles et également faire savoir à l'opinion que le syndicat n'est pas seulement la revendication des doléances et les grèves, mais aussi de l'humanitaire selon les organisateurs. Les missions et le rôle du médiateur de la République étaient au cœur d'une journée porte ouverte organisée hier à Ségou. Il s'agissait pour les responsables de l'institution d'informer les citoyens sur le médiateur de la République exclusivement dédié à la promotion de la démocratie et à l'état de droit garantissant à chacun l'exercice de ses droits et devoirs dans la citoyenneté. L'activité a drainé une grande foule. Elle s'est déroulée en présence des autorités administratives et politiques. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez écouter toutes ces informations sur notre site web au www.sudiotamani.org ou en appelant gratuitement sur Viamo au 37 321. Restez à notre écoute. Tout de suite, la question A. Les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 commenceront au cours du mois de juin prochain. Les Aigles du Mali sont dans le groupe G. Ils sont avec le Congo-Brazzaville, la Gambie et le Soudan du Sud. Le tirage au sort a eu lieu hier à Johannesburg, en Afrique du Sud. Quelles sont les chances du Mali? Moussa Bouli, journaliste consultant sportif, répond aux questions de Omar Weygalo.
Les chances du Mali sont aussi réelles que tous nos adversaires, notamment le Congo-Brazzaville, la Gambie, et le Soudan du Sud. Ce sont des adversaires qui ne sont pas inconnus. Ça, c'est déjà un atout parce qu'on a affronté la Gambie lors de la dernière CAN au Cameroun. Pour la CAN 2019, je pense aussi que nous étions dans le même groupe que le Soudan du Sud avec 3-0 à Bamako, 3-0 au retour chez eux. Et le Congo, c'est un adversaire qui nous est très connu, très familier. Je pense que c'est à nous de croire à notre chance de se qualifier et de donner les moyens aux jeunes et à leur encadrement technique pour atteindre cet objectif.
Aujourd'hui, faut-il croire à cette équipe malienne?
Ces derniers temps, on n'a pas atteint nos objectifs, notamment on n'a pas fait la prestation attendue à la CAN 2019. On est passé à côté d'une qualification historique à la Coupe du Monde, mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a un travail exceptionnel qui a été fait par l'encadrement technique avec des jeunes talents pour conforter et consolider les acquis tout en tirant les leçons de ce siècle passé. C'est ce qui permettra à l'équipe vraiment d'aller monter en puissance.
Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut changer dans les tactiques?
Je pense que vous avez touché du doigt le problème fondamental aujourd'hui de l'équipe nationale. Elle ne marque pas. Elle ne marque pas. Pourquoi elle ne marque pas? L'animation offensive laisse à désirer. On n'a jamais été dominé par nos adversaires et on s'est toujours procuré les meilleures occasions que nos adversaires, mais au final, c'est nous qui perdons.
Concrètement, qu'est-ce qu'il faut corriger à ce niveau?
Le nouvel entraîneur va étudier et trouver la solution parce qu'on a des attaquants de pointe aujourd'hui, Dieu merci. Et maintenant, qu'est-ce qui ne marche pas entre la ligne médiane et le secteur offensif? Parce que tout le problème est là. Le rappel de certains joueurs pour la CAN a presque perturbé l'équilibre au niveau de l'animation offensive des Aigles. Ce qui fait qu'on marquait. On avait retrouvé le chemin de filet avec pendant les éliminatoires de la Coupe du Monde et même de la CAN, même si on ne marquait pas assez de vie. Mais Ibrahim Koné, quand il a été convoqué, il a presque marqué à toutes les rencontres à laquelle il a participé. Subitement, ça ne marche pas à la CAN.
Aujourd'hui, les trois autres nations que nous allons croiser sont-elles tenables?
Il faut aborder chaque rencontre selon les réalités du moment. Vous avez vu la Gambie. Pour nous, à la CAN, on allait facilement s'en sortir avec la Gambie et la Mauritanie. Mais c'est vrai qu'on a battu la Mauritanie avec un certain écart, mais la Gambie, ça n'a pas été facile parce qu'ils n'ont pas le même système de jeu. Chaque équipe a sa chance. C'est à nous maintenant de nous donner des atouts pour dominer les autres.